Il y a deux types de personnes dans ce monde qui ne font pas les choses. Il y a ceux qui ne font rien parce qu'ils ont envie de rien faire, et il y a ceux qui ne font rien car ils ont envie de tout faire, de faire beaucoup de choses, mais ne savent pas comment ni par où commencer. Si vous faites partie comme moi de la deuxième catégorie, alors bienvenue dans l'épisode 7 de Summer Talk avec Rouliette. Installez-vous confortablement ou au contraire, partez pour une petite marche. C'est parti! Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode que je suis très, mais alors très heureuse de vous présenter aujourd'hui. Quand j'en ai eu l'idée en fait, je pensais pas à l'écriture que j'allais réaliser tant de choses et trouver le déclic que j'attendais depuis des années pour me motiver à faire les choses justement. Vous savez, ces trucs qu'on se dit qu'on va commencer depuis des années, puis qu'on n'a jamais fait, ou qu'on a arrêté au bout de deux essais par faute de motivation. Alors si vous attendiez un signe sans savoir lequel pour vous lancer ou persévérer, le voilà. On se retrouve à la fin du podcast pour le départ d'un nouvel arc de votre vie. Arc comme dans Naruto, c'est parti. Nous sommes une génération qu'on décrit souvent de feignante. Et je pense que le mot est très réducteur et surtout très mal choisi. Parce qu'en fait, on n'a pas moins envie de faire les choses. À vrai dire, je pense que c'est l'exact inverse dont il s'agit. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons envie d'accomplir un nombre incalculable de rêves, mais nous ne savons pas par où commencer face à l'immensité qu'ils peuvent représenter dans notre tête. Car tous les jours, nous sommes confrontés via les réseaux sociaux à mille et une nouvelles choses extraordinaires que l'on voit des gens faire ou avoir et qui fragilisent encore plus notre aptitude à faire le tri dans tout ce qu'on veut réaliser, dans quel ordre et par quels moyens. Parce que même les moyens, en fait, ils s'entassent les uns après les autres au point où on ne sait plus où donner de la tête pour commencer l'apprentissage de quoi que ce soit. Par où commencer? Par quels moyens? On se demande alors... Dois-je profiter de ce bel outil qui est Internet et que j'ai la chance d'avoir, qui regorge de contenus d'apprentissage diversifiés et adaptés, comme me le rappellent H24 mes profs? Ou devrais-je au contraire me détacher un peu du numérique et des écrans pour revenir au basique, les livres? Écrire sur papier, bosser depuis un café sympa après les cours, après le travail? Me relaxer le cerveau de toute cette lumière bleue numérique insupportable? Ou devrais-je aller encore plus loin et prendre des cours directement en réel avec un vrai professeur? Car rien ne vaut la régularité, la rigueur, la persévérance qu'un enseignant insuffle chez nous. Mais ai-je assez d'argent pour payer ces cours? Ai-je assez de temps? Le prof va-t-il me plaire dans son enseignement? Est-ce que je vais me retrouver avec des bien plus jeunes que moi parce que je pars d'un niveau débutant? Ne vaut-il pas mieux en fait que je travaille seule de mon côté? Mais est-ce que je vais être régulière si je suis seule? Est-ce que je vais être motivée à essayer de comprendre encore et encore après plusieurs échecs? Est-ce que je vais pas plus vite baisser les bras au final? Quelle issue est la meilleure? Quelle issue est la plus rentable? Comment choisir celle qui me permettra d'apprendre le plus vite? Il faut que mon niveau soit rapidement satisfaisant, sinon je vais me sentir nulle et je vais arrêter. Seulement, combien de temps ça prend d'avoir un bon niveau dans le domaine, au minimum? Juste en estimation. Ça diffère vraiment selon les gens? Il n'y a pas de réponse prédéfinie? Parce que je ne peux pas me permettre de passer plus de X temps sur cet apprentissage ou de perdre plus de X argent à le financer. Peut-être qu'au final, en fait, tout ça, c'est des excuses et que je ne suis pas vraiment passionnée. Parce que si je l'étais, je me poserais pas de questions, je serais déjà en train de le faire, non? Bon, bah c'est qu'il faut pas que je le fasse. J'attendrai que quelque chose représente une évidence pour me lancer. Et voilà comment, partant d'une volonté de faire en fait, d'essayer, d'innover, on peut se méprendre et surtout s'auto-saboter à la vitesse grand V, ne rien faire, et plus tard se lamenter de n'avoir rien fait. Alors la vraie question, la vraie problématique en fait de tout ce podcast, c'est... Comment rompre ce schéma d'auto-sabotage où l'on finit par se restreindre nous-mêmes de faire les choses qui nous animent ou dont on est curieux, où l'on finit par avoir même le sentiment de régresser, d'être impuissant, d'être bon à ne rien faire? Comment retrouver la motivation et la confiance en soi pour agir de nouveau? Je me suis dit que pour arriver en fait à cette issue favorable d'agir, il fallait être méthodique. D'abord, on dégage les facteurs, les circonstances qui seraient les faux obstacles à agir en fait, ou à ne pas agir plutôt, constituant donc le schéma d'auto-sabotage dans notre cerveau. Et ensuite, une fois qu'on les a identifiés, on les déconstruit, on essaie de comprendre de quoi ils sont faits, pour quelles raisons ils sont là, et faire en sorte en fait qu'après qu'on les ait compris, ils n'existent plus, et qu'on puisse faire les choses qu'on a envie de faire. Et je tiens à préciser que dans cet épisode, je vais parler que des faux obstacles uniquement. Je parle pas de vrais obstacles qui sont factuels, genre, tu rêves de faire du patin à glace alors que t'habites dans un désert. Ça, c'est un vrai obstacle, parce que ça va être compliqué de faire une patinoire dans le désert. Quoique, si on habite à Dubaï, ce n'est pas le cas. Mais bref, politique la juju. En gros, juste dans cet épisode, on va parler des manifestation en fait consciente ou inconsciente qu'on s'auto-crée dans notre cerveau, qui vient de notre psyché et qui nous bride dans la réalisation des choses auxquelles on aspire. Parce que je pense, vous seriez assez surpris de savoir que si on a tous et toutes notre histoire, notre vécu, nos expériences, nos traumas, ces manifestations par contre, elles, qui créent des faux obstacles et ce schéma d'auto-sabotage nous empêchant d'agir, sont relativement les mêmes pour nous, tous. Aussi facilement identifiables que difficilement surmontables. Et nous, dans cet épisode aujourd'hui, on va faire les deux. Parce que l'objectif en fait derrière, il est très simple. C'est vivre. C'est faire, c'est agir. Et ne pas subir les choses qui nous arrivent, ne pas subir la vie, ne pas être passif, passive face à elle. Et je précise de nouveau, comme je l'ai annoncé en tout début d'épisode, que je parle bien ici de passivité dans le sens où vous subissez une situation qui ne vous convient pas sans réagir. Je ne parle pas du tout et je ne condamne absolument pas du choix de ne rien faire de temps en temps, parce que vous avez envie de vous reposer ou même de vous ennuyer, c'est quelque chose d'ailleurs que je chéris. Parce que là, ce dont je parle en fait, c'est quand il ne s'agit pas d'un choix. Il s'agit de quelque chose que vous subissez. Ici, je parle à toutes les personnes, tous les jeunes ou moins jeunes, qui se rendent compte plus que jamais, les années passant, avec l'état de la planète qui s'aggrave, ou celui de nos chers et tendres politiques, à quel point la vie, en fait, elle est aussi précieuse que fugace, et qu'il faut la chérir, s'en saisir tous les jours pour faire les choses que l'on veut, le plus possible. Le but de ce podcast, c'est pas d'accentuer une quelconque anxiété à ce sujet, mais au contraire de vous stimuler, de vous aider à y voir plus clair, de vous aider à ne pas vous renfermer sur vous-même et vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire à cause de faux obstacles que vous vous créez vous-même et qui sont largement surmontables au final. Bien évidemment, j'aurais pu résumer cet épisode et toute cette problématique à « just do it ». Vous savez là, le mème de Shia LaBeouf là, où il fait « just do it ». Parce qu'au final, la réponse à toutes vos peurs, vos auto-sabotages, vos inquiétudes, c'est « juste fais ». Vis, expérimente, plante-toi, réussis, nourris-toi d'expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Vis, fais, ne subis pas les choses qui t'arrivent. Mais vous ne seriez pas là en train d'écouter cet épisode et je n'aurais pas passé des heures à le construire si c'était aussi simple que « just do it ». Parce que le nœud du problème, c'est bien d'identifier et de déconstruire ce qui nous empêche de juste faire les choses qu'on a envie de faire. Ici, il n'y aura pas de conseils miracles très précis du genre « lève-toi 6 heures, bois un shot de gingembre, va courir, travaille 10 minutes avec des boules caisses » ou autre. Parce que ces conseils, en fait, c'est hyper subjectif. Moi, par exemple, je travaille 1000 fois mieux et je suis beaucoup plus créative tard le soir, avec un environnement qui vit et qui évolue autour de moi, avec de la musique dans mes oreilles. Par contre, ce qui est objectif et qui nous concerne tous et toutes, c'est déconstruire les faux obstacles qui nous touchent à différentes échelles, mais qui nous touchent tous et toutes une fois de plus pour avancer. Cette intro était un poil longué, mais je préfère bien poser le cadre pour éviter les incompréhensions et désormais avancer avec vous de la manière la plus limpide qui soit. Donc, ces faux obstacles dont j'ai tant parlé et qui nous empêchent de « just do it », quels sont-ils ? J'en ai répertorié 3 qui, selon moi, sont les plus principaux, si je peux dire. Mais peut-être qu'il en existe d'autres, mais j'ai répertorié les 3 principaux, que je vais aborder d'ailleurs de manière non exhaustive. Il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Le premier faux obstacle qu'on se met à ne pas faire les choses qu'on a envie de faire, c'est la peur de mal faire, qui du coup nous fait suranticiper la possibilité de l'échec et qui nous bloque avant même qu'on ait commencé, nous faisant procrastiner. À savoir, procrastiner, c'est le fait de remettre à plus tard une action qu'on était en vérité capable de faire à l'instant T. Cette peur de mal faire, elle peut elle-même être alimentée par des peurs annexes, à savoir la peur du regard, du jugement d'autrui sur notre progression, sur la qualité, la vitesse, l'investissement dans notre apprentissage. Ça, c'est le premier faux obstacle, la peur de mal faire. Le deuxième faux obstacle, c'est celui du problème d'organisation face à la multitude de moyens, de ressources qu'on a à disposition à l'heure actuelle pour se lancer. C'est un frein invisible auquel on ne pense pas directement et qui pourtant nous empêche bien de faire les choses. Ici, je ne parle pas de problème d'organisation de temps où, encore une fois, factuellement, certaines personnes auront de vrais problèmes du coup à le trouver et à s'organiser. Par exemple, vous êtes une mère de famille débordée ou un père de famille débordé, que sais-je, juste un étudiant, une étudiante ou un adulte qui travaille. Entre le taf, métro, boulot, dodo, vous faites les courses, si vous avez des enfants, vous allez chercher vos enfants, vous les amenez aux activités périscolaires, vous êtes étudiant, vous avez un autre taf à côté. Là, encore une fois, il s'agit d'obstacles qui sont vrais et qui sont difficiles à surmonter. Moi, je parle pas non plus ici des personnes qui ont le temps mais n'arrivent pas à être honnêtes avec le fait qu'elles en ont. juste qu'elles l'utilisent pas pour faire ce qu'elles ont envie de faire. Et je dis ça sans aucun jugement, hein. Je fais grandement partie de cette catégorie à bien des égards malgré moi. Vous le savez, encore une fois, je parle vraiment du moment où on passe 2 heures à scroller sur notre téléphone, alors même qu'on n'en a pas envie, alors même qu'on se dit « mais putain, je pourrais faire autre chose, ça sert à rien », mais que du coup, on n'a pas fait. Ça, c'est pas une question d'obstacle, c'est une question de priorité et d'honnêteté envers soi-même. C'est très dur à y faire face, mais encore une fois, c'est différent de ce que je veux aborder. Moi, ici, je parle vraiment du faux obstacle d'organisation, quand ça y est, on met du temps à profit pour faire les choses qu'on a envie de faire, qu'on a envie de faire les choses, on y est, mais qu'il y a tellement de moyens d'apprentissage possibles face à nous qu'on ne parvient pas à déterminer lequel est le mieux, et qu'à force d'hésiter, en fait, on finit par se démotiver et par ne rien faire. Alors que souvent, on n'a même pas cherché à tester un seul moyen, ou plusieurs, pour déterminer lequel est en pratique celui qui nous convient le mieux. Et enfin, le troisième faux obstacle, c'est le fait qu'il soit difficile d'accepter que l'apprentissage, donc de cette chose qu'on veut faire, va être long, avec des résultats qui seront « trop petits » entre guillemets, pour qu'on se rende compte qu'accolés les uns aux autres, ils forment une progression stable et durable dans le temps. Ce troisième faux obstacle, en fait, c'est celui de baisser les bras pendant ce process qui est normalement long, en fait, pour ces raisons, alors qu'on y est, on a fait le plus dur, et que maintenant, c'est juste que les choses mettent du temps à se développer. Et c'est le faux obstacle, en fait, d'accepter que ça va prendre du temps, et que c'est normal. Maintenant que nous avons identifié la nature et les raisons de l'existence de ces trois principaux faux obstacles, qui constituent chez nous, en fait, de véritables obstacles pour avancer et faire les choses, on va les déconstruire ensemble. Le premier faux obstacle, je le rappelle, c'est la peur de mal faire. Spoiler, réponse tout de suite, vous allez mal faire. Surtout au début où vous ne connaissez rien. Et vous voulez savoir pourquoi ? Parce que vous ne connaissez rien, tout justement. C'est l'objectif de l'apprentissage. Je dirais même que son essence, en fait, c'est de vous tromper. Parce que cela vous permet de savoir ensuite quand vous avez juste, quand vous êtes dans le bon. Et c'est normal, parce que vous partez d'une base de zéro. À part l'inné, en fait, il n'y a rien que vous puissiez savoir faire sans vous tromper avant. Et vous voulez savoir encore mieux ? Même quand vous serez doué dans ce domaine, que vous l'aurez travaillé sans relâche, bah vous vous tromperez encore. N'oubliez pas que la plupart des grandes inventions qui ont révolutionné notre monde partaient d'erreurs. La pénicilline, par exemple, qui a sauvé tant de personnes d'infections graves, ça venait d'une moisissure qu'on avait oubliée et qui, en pourrissant, a créé un remède extraordinaire. La tartatin, dans un tout autre registre, mais j'étais taureau, j'étais obligée de le prendre, à la base, c'était une erreur. Et à l'heure actuelle, c'est un dessert qui est hyper reconnu dans le monde entier. Et pour prendre un exemple plus simple, que nous avons tous et toutes connus, tous et toutes expérimentés, voilà, parce que personnellement, j'ai ni créé un dessert renommé, ni un remède extraordinaire de médecine. Un exemple qu'on a tous et toutes connu, c'est l'apprentissage de la lecture. À la base, ça se fait très généralement quand on est enfant. On va à l'école, on apprend, on se trompe, notre professeur nous corrige, on s'exerce encore et encore jusqu'à savoir lire. Et il ne viendrait absolument à personne, à part les écervelés d'harceleurs, pour être politiquement correct dans ce podcast, de se moquer d'un enfant qui apprend, n'est-ce pas ? Et au-delà de ça, même pour la plupart d'entre nous qui n'ont pas de problème avec la lecture à l'heure actuelle, est-ce qu'il ne nous arrive pas parfois de nous tromper encore ? De pas bien lire un mot, ou même de pas savoir le lire, de pas savoir bien orthographier d'autres mots, de savoir comment conjuguer ? Et est-ce que pour autant cela représente pour nous une raison en fait légitime, suffisante de ne plus jamais lire, parler ou encore écrire ? Absolument pas. Du moins, je souhaite que ce soit le cas pour tout le monde. Eh bien, c'est pareil en fait avec n'importe quel autre apprentissage. Et si même certains apprentissages aussi primaires que ceux que je viens d'énoncer, que nous pratiquons depuis notre plus tendre enfance, nous donnent encore parfois du fil à retordre, sans que pour autant on s'interdise de les pratiquer, en quoi ça devrait être différent avec un quelconque autre apprentissage, bien moins inné que ces derniers ? Quelle serait la légitimité, en fait, que quiconque critique votre progression par rapport au courage de vous être lancé, challengé physiquement ou intellectuellement dans ce nouveau domaine ? Je vous le dis, aucune. Sachez que les seules personnes qui jugent, en fait, c'est celles qui font pas les choses que vous faites. Ou pour qui, manquant de courage, de persévérance et de confiance en elles, tentent désespérément de s'attribuer plus de valeur et de crédit en descendant celle des autres. En gros, c'est comme des détraqueurs d'Harry Potter. Genre vraiment ni plus ni moins. Donc, vous faites comme Harry, vous les évitez, ou vous déclenchez un gros patronus dans leur tronche, mais en tout cas, une chose est sûre, laissez-les couler dans leur propre noirceur, et vous, baignez dans votre propre lumière. On va passer ensuite à la déconstruction du deuxième obstacle. Les problèmes d'organisation pour vous lancer face à la multitude de moyens et de ressources pour apprendre. Ici, je parle de la sensation de quand ça y est, on est prêt à se lancer, on a trouvé le temps à mettre à profit, et où on est submergé jusqu'à avoir le sentiment de couler en fait face à l'immensité des possibilités de moyens qu'on a de commencer à apprendre. Comme si on se débattait dans l'eau face à 20 rives différentes, sans savoir laquelle choisir pour accoster, et finir par couler, faute de n'avoir pu ou su choisir. Et si vous comprenez pas où cette métaphore aquatique vous mène, enfin nous mène, eh bien c'est tout simplement que comme dans la vraie vie, on a oublié l'essentiel. L'objectif premier, accoster. L'impératif vital en fait, c'est d'arriver sain et sauf sur la terre ferme en premier lieu. Quitte à après aller vers une autre rive qui vous semble mieux. Parfois la meilleure manière de commencer quelque chose, c'est tout simplement de commencer, peu importe le moyen. On aimerait se convaincre par un millier d'excuses, de raisons, que si nous n'avons pas commencé à faire les choses dont nous avons envie, c'est parce qu'on ne sait pas où donner de la tête par rapport à tous les moyens qui existent pour les commencer. Alors que le plus dur n'est pas de trouver le bon moyen, d'ailleurs qu'on ne pourra pas déterminer tant qu'on ne les a pas testés. La chose la plus dure, c'est de commencer. Quand vous aurez commencé, le plus dur aura été franchi, croyez-moi. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'après avoir commencé quelque chose, on ne peut plus se cacher derrière des spéculations de « Oh, est-ce que j'y arriverais si je commençais ou pas ?» Parce qu'en fait, on s'y est mis. On affronte la chose dès lors, on l'esquive plus. Et ça, c'est la première chose la plus incroyable, la plus essentielle et la plus difficile à faire. Au départ, il s'agit juste de faire. Vous trouverez des systèmes, des moyens qui vous correspondent à force d'en avoir testé. Mais au début, il faut juste se lancer. Et pourquoi c'est rigolo de juste se lancer, pourquoi c'est difficile, pourquoi cette phrase elle paraît aussi simple et si compliquée à mettre en application? Parce qu'en fait, le plus difficile dans le fait de se lancer réside dans l'affrontement de deux choses. La rigueur et le temps que vous allez devoir trouver et mettre à disposition pour progresser. Et la possibilité, plutôt inévitable en fait, de l'échec. Ou même des échecs auxquels vous allez faire face tout au long de votre apprentissage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Parce que je le rappelle, quelqu'un qui apprend échoue par essence. Et donc en opposition, quelqu'un qui n'échoue pas et quelqu'un qui n'apprend pas. L'erreur, c'est un facteur essentiel de la réussite. Et de toute manière, n'oubliez pas que le seul véritable échec, en fait, ce serait d'arrêter l'apprentissage. Et sans jugement aucun. Juste factuellement, il s'agirait d'un échec dans le sens où on parle d'une tentative qui n'aurait pas abouti dans les résultats de base escomptés. Et en plus, c'est une chose qui est ni grave ni anormale. Vous n'êtes pas obligé de réussir absolument tout ce que vous entreprenez. Il y a des choses que vous aurez envie d'essayer par curiosité, pour le plaisir, pour vous rendre compte au final que bah, ça ne vous correspond pas pour X ou Y raison. Donc si en soi, ces deux choses sont les seules vraies qui nous freinent et non les moyens pour se lancer, ne nous enlevons pas en fait des possibilités de faire, de tester, par manque ou par trop de moyens. Prenez celui qui vous est le plus accessible sur le court ou long terme, selon votre empressement à commencer à faire la chose, et lancez-vous. Entourez-vous, motivez-vous par le soutien de vos proches, d'un groupe d'études, de sport, ou que sais-je. Ce sera ces moyens qui seront les bons à prendre lorsque vous aurez trouvé la première once de courage et de détermination à vous lancer. Enfin, le troisième faux obstacle à déconstruire, selon moi, c'est l'acceptation du temps que nécessitera une progression stable et durable. Une fois de plus, spoiler, vous êtes un apprenti. Personne ne devient maître du domaine qu'il apprend du jour au lendemain. Ça, il faut que vous le conscientisiez et que vous ne soyez pas déçu en fait de vous après X temps d'apprentissage sans pour autant maîtriser le domaine. Prenons l'exemple d'une personne fitness, enfin des personnes fit de ouf là. Il n'y a absolument aucune d'entre elles qui s'est réveillée un matin par la force de la persuasion avec des biceps hyper développés, des abdos super dessinés. Ce serait pas humain, on est d'accord. Non, ces personnes, elles ont eu ces résultats à force d'entraînement, à répétition, de sèche, de prise de masse, de muscles, d'échecs, de réussites. Les muscles, ils se sont dessinés en fait petit à petit au fil de ces entraînements rigoureux, constants et patients. Alors ne vous auto-sabotez pas à vous dire que vous êtes nul et que vous devriez arrêter parce qu'au bout de quelques mois, vous n'avez toujours pas le niveau satisfaisant que vous désiriez en commençant. C'est là en fait qu'il faut tenir. Si vous vous souvenez de votre objectif de base. C'est là qu'il faut persévérer pour voir vos résultats continuer de grandir encore et encore. Et c'est qu'à la fin, en fait, avec un grand recul, ou même au milieu, que vous rendez compte déjà de tous les petits pas accumulés les uns aux autres que vous avez faits, mais chaque pas tout seul peut paraître très minime, donc il ne faut pas se focus sur ça. Et oui, il y a des génies dans ce monde qui arriveront à faire plein de choses très rapidement. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'une minorité extrêmement infime qui ne représente aucunement les plus de 7 milliards d'êtres humains présents sur la Terre comme vous et moi. Et oui, sans même parler de génie, vous verrez parfois des personnes qui ont commencé plus tardivement que vous, avec un niveau plus médiocre, et qui pour autant vont avancer plus vite que vous. Sauf que, 1. Vous ne savez pas forcément le temps que ces personnes mettent à profit pour apprendre, ni leurs efforts dans ce process. Et 2. On a tous des domaines, des sujets où on a des facilités là où d'autres n'en ont pas, et inversement. Par exemple, un enfant qui naît de deux parents avec deux langues, deux cultures différentes. Et B va être beaucoup plus propice plus tard, en général. Je ne veux pas trigger les personnes qui seraient nées avec deux parents de cultures, de langues différentes et qui galèrent à apprendre des langues, bien évidemment. Mais en général, en fait, quand on est enfant, on a un cerveau qui est très malléable et qui est prêt à recevoir un puits de connaissances infinies. Et quand ces cellules, en fait, sont activées, plus tard, en tant qu'adulte, ces personnes auront de plus grandes facilités à apprendre des langues que d'autres. Par exemple, moi j'ai une de mes meilleures potes, qui s'appelle Alba, et elle a grandi dans un milieu franco-espagnol, donc elle est parfaitement bilingue. Et du coup, avec les langues, en grandissant, elle a très peu de soucis d'apprentissage, que ce soit l'anglais ou même l'allemand, ou même des langues qu'elle a tout juste entendues. J'arrivais une fois où on était posés ensemble, moi j'écoutais une chanson de K-pop, et Alba, elle est pas du tout intéressée à la base par ce milieu-là, donc vous voyez, c'est pas comme moi où j'entends le coréen depuis des années dans les chansons, dans les dramas ou autres. Non, genre Alba, elle écoute la chanson, elle aime bien, elle écoute pendant un jour ou deux, et je vous jure que le lendemain, elle pouvait me la chanter quasiment aux trois quarts. Alors qu'elle avait jamais entendu de coréen de sa vie, ou très peu. Et ça, c'est dû au fait que, vous voyez, c'est une cellule qui a été activée quand elle était petite, et que moi, par exemple, je n'ai pas. Mais c'est pas grave, c'est parce qu'elle, elle a ce domaine de facilité que moi, je n'ai pas, mais par contre, moi, je vais en avoir d'autres qu'elle n'a pas, forcément. C'est comme quand moi j'ai commencé à apprendre le coréen, il y a des leçons que certaines personnes trouvent très difficiles, par exemple la date, les heures, que moi j'ai trouvé hyper simple. Et à l'inverse, il y a des leçons que tout le monde trouve pétées et sur lesquelles j'ai buté, mais de fou en fait. Donc ça dépend des gens. Et au-delà en plus de ces facteurs, il y en a d'autres qui rentrent en jeu dans la qualité de la progression de votre apprentissage, qui dépassent le simple « suis-je en vérité capable de le faire ?» Est-ce que vous êtes en forme physique, mentale? Est-ce que vous êtes préoccupé par autre chose? Est-ce que vous avez des compétences annexes à développer de manière simultanée pour maîtriser celles que nécessitait la première tâche d'origine? Faut pas vous accabler et encore moins vous restreindre par les choses qui parfois vous dépassent. Vous avez une vie à côté. Humainement, vous pouvez pas être à 100% dans un apprentissage, parce qu'à côté, vous avez d'autres choses qui nécessitent une grande partie de votre attention. Des études, le travail, la famille, les relations amoureuses, les relations amicales, la santé mentale, et j'en passe. Alors, après avoir compris tout ça, il vous reste qu'une chose à faire, c'est accepter que cela prendra plus ou moins de temps, mais que c'est normal parce que vous êtes humain, et non incapable, vous êtes juste humain. En conclusion de cet épisode, et croyez-moi c'est pas fini, restez bien, pendant mes études de droit en fait, les profs ils avaient coutume de nous dire que les conclusions, elles n'étaient pas nécessaires, car si notre démonstration, elle était bonne, alors il était inutile pour le lecteur de nous entendre nous répéter. Et en hommage à l'un des rares conseils très intéressants et non formalistes de mes chères anciennes études, je vais l'appliquer. Je ne me répéterai donc pas sur ce que je vous ai dit, mais je finirai par la chose suivante. Vous avez désormais un choix à faire parmi deux possibilités, à l'issue des quelques secondes qu'il nous reste encore ensemble. Soit vous faites en sorte que cet épisode ne soit pas juste un moment de longues minutes à m'avoir écouté parler, et vous vous en servez comme le tremplin que vous attendiez pour enfin vous lancer et opérer peut-être, je l'espère, l'un des plus gros changements de votre vie. Parce que oui, cet épisode, c'était clairement le signe que vous attendiez, dont vous aviez besoin. Soit vous souriez en entendant ces mots, en vous disant que c'est plutôt cool et motivant, mais pas assez pour que vous vous y mettiez maintenant, et que vous verrez à la rigueur la semaine prochaine ou la semaine d'après. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. Juste celle que vous avez envie de choisir par rapport à ce que vous avez envie de faire et ce que vous sentez capable de faire. Car vous qui m'écoutez, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne connais pas votre vie, ni votre passé, et encore moins votre futur. Par contre, je sais une chose. Tant que vous êtes vivant, vous êtes capable. Alors vivez. C'était Juliette sur le podcast Summer Talk. Jusqu'à la prochaine fois. Vivez mes loups. Ciao !